This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dès aujourd'hui, n'importe quel client pourra se payer une place à bord de nos satellites grâce à une carte de crédit.
Des réseaux de dizaines, pardon, de centaines, pardon, de milliers de satellites.
Donc dans ce nouveau Far West de l'espace, on a deux cow-boys milliardaires qui s'affrontent.
A satellite constellation.
C'est le premier arrivé, premier servi et que le meilleur gagne, quoi.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 28 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne sais pas où vous partez en vacances, mais il y a une destination à la mode cet été, c'est l'espace.
Cet atterrissage historique, celui de Richard Branson qui a pu s'envoler dans l'espace pour le tout premier vol touristique.
C'est un rêve d'enfant que vient de réaliser Jeff Bezos. L'enjeu du jour, prouver qu'un nouveau tourisme est possible.
Voir la Terre depuis les étoiles, flotter en apesanteur, ça fait rêver. Certes, c'est pas donné à tout le monde, il faut être un peu milliardaire, mais ça y est, ça se bouscule. On a eu donc le patron de Virgin, Richard Branson, Jeff Bezos la semaine dernière, Elon Musk dans quelques semaines. Les hommes les plus riches de la planète se disputent le tout nouveau marché du tourisme spatial. C'est à celui qui ira le plus haut, qui aura la meilleure fusée. C'est la saga de l'été à la une des journaux. Mais ces milliardaires s'affrontent plus discrètement ailleurs dans l'espace. Une course cruciale qui, pour le coup, nous concerne tous. Vous le savez, cette semaine dans La Loupe, on vous propose 5 épisodes sur ces projets fous qui révolutionneront le monde de demain. Aujourd'hui, la guerre de l'orbite basse. L'enjeu, c'est d'y envoyer le plus de satellites possible. À la clé, il y a la nouvelle révolution de l'Internet, un marché de centaines de milliards de dollars et un possible cataclysme spatial. Pour aller voir de plus près à l'Express, on ne lésine pas sur les moyens, on a sorti Explainer One, la fusée virtuelle de la rédaction, et j'ai embarqué avec moi Bruno Cotte, notre spécialiste science et espace, et Emmanuel Botta, du service économie. Pareil à décoller, messieurs ?
Ouais. Pareil à encaisser 9G, une vitesse de 27 000 km/h au démarrage, mais bon, si vous avez l'estomac, on y va.
Eh bien voilà, accrochez vos ceintures, direction l'orbite basse. Et voilà, on y est, c'est plus rapide que le SpaceX d'Elon Musk. Bruno, est-ce que d'abord tu peux nous décrire où on est exactement ?
On est, je dirais, juste au-dessus de l'atmosphère. On commence à apercevoir ce qu'on appelle la courbure de la Terre. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, jamais.
Il n'y a pas de bruit.
Parce que tout simplement, les ondes ne peuvent pas se répercuter, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Donc on est dans le silence le plus total.
Ça va être compliqué pour un podcast, pas de bruit. On croise ici déjà quelques satellites, mais à l'avenir, il y en aura des milliers d'autres, voire des dizaines de milliers. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on envoie autant de satellites ici en orbite basse ?
Il y a une espèce de ruée, des choses sont assez simples si je puis dire. On est à très faible altitude, 500 km d'altitude. Les satellites là se déplacent très très vite. Le gros avantage, c'est que plus on est proche de la surface de la Terre, le signal a moins de distance à parcourir. On parle d'effet de latence en général. Et moins il y a de distance à parcourir, plus l'information va vite. Donc il y a plus de fluidité et donc on peut imaginer et développer des services, des applications beaucoup plus nombreuses pour la suite. Il y a un petit problème, il en faut un certain nombre pour avoir une couverture, avoir un réseau, un vrai maillage. Ce maillage demande énormément de satellites, D'où l'idée qui se développe depuis une grosse décennie de mettre en place ce qu'on appelle des constellations, donc des réseaux de milliers de satellites, de tout petits satellites. L'exemple le plus emblématique est évidemment celui d'Elon Musk. Juste pour avoir un petit ordre d'idée, depuis le début de la conquête spatiale, avant les constellations, on avait envoyé quelque chose comme 5000 objets dans l'espace. Là, Musk, en quelques années, il en a envoyé déjà 1200. Il en prévoit 12 000, voire 40 000.
Rien que ça. Et justement, comment ça se passe, Emmanuel ? Qui, à part Elon Musk, peut faire des constellations ? Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'il y a des règles ?
Il y a une grande règle. La première, c'est qu'il faut quand même demander à l'IUT, donc c'est le gendarme mondial des télécoms, quel créneau, on va dire, on a envie d'aller truster. Donc, il suffit de dire, voilà, par exemple, Elon Musk a dit « Je veux 12 000 créneaux pour mes satellites. » La Chine vient d'en demander 13 000. On a aussi l'anglo-indien OneWeb qui a demandé plusieurs centaines. Donc, voilà. Une fois qu'on a eu l'autorisation donc, du gendarme des télécoms mondial, il n'y a pas tellement de règles. Hein. C'est le premier arrivé, premier servi, et que le meilleur gagne. Quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle souvent de Far West. Et donc, le marché, il est encore naissant parce qu'il n'y a pas encore vraiment de service. Alors, Starlink, donc le réseau d'Elon Musk, commence à tester dans le nord des États-Unis et du Canada un maillage Internet de haut débit parce qu'on sait effectivement, notamment, que dans le centre des États-Unis, le maillage Internet est assez pauvre.
Donc, ça sert à ça, les constellations, à arroser d'Internet
La première chose, c'est apporter l'Internet haut débit absolument partout. C'est-à-dire dans les montagnes, dans les îles, en mer, dans le ciel. Voilà. Autant d'endroits qui sont aujourd'hui encore très très mal ou pas du tout couverts.
Donc, si je comprends bien, les constellations de satellites, c'est une infrastructure. C'est comme des tuyaux pour Internet.
C'est ça. C'est l'équivalent des pylônes électriques d'il y a 80 ans qu'on voit encore parfois dans les campagnes. C'est l'équivalent aussi effectivement des tuyaux qu'on passe sous la mer pour apporter l'Internet, sauf que voilà, c'est une super infrastructure, mais spatiale.
Et celui qui maîtrise l'infrastructure ?
Comme toujours, maîtrise le reste, c'est ce qu'on dit toujours avec la ruée vers l'or, c'est que ceux qui ont fait fortune, c'est pas tellement ceux qui ont cherché l'or, c'est ceux qui ont vendu des pelles et des sacs de jute.
Voilà, donc Elon Musk vend des pelles et sacs de jute. C'est donc un marché ou un futur marché gigantesque ? Est-ce qu'on sait combien ça représente potentiellement ?
Potentiellement, en termes de révolution, c'est la même révolution qu'Internet, donc c'est comme si on se posait la question il y a 30 ans, combien va peser le marché de l'Internet ? Mais c'est des centaines et des centaines de milliards. Enfin, tout quasiment se passera certainement par le spatial demain.
Donc Internet, mais il y a d'autres choses.
On peut tout imaginer. Alors là, effectivement, on est dans le prospectif, mais on peut imaginer évidemment les services de base qui existent déjà, mais qu'on va décupler, c'est les services d'observation de la Terre, voir si la déforestation avance, si les eaux montent. Donc ça, c'est des choses un peu grandes, mais on peut imaginer un festival, effectivement, qui va surveiller les mouvements de foule, qui va s'assurer, effectivement, qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas des gens qui essayent de rentrer. Alors, ça, c'est possible parce que tous ces petits satellites qui sont peu chers, en fait, permettent, du coup, d'avoir des services au prix peu élevé et, du coup, qui peuvent être facturés à, alors, je dirais pas tout et n'importe qui, mais à des entreprises assez modestes. Aujourd'hui, le spatial, c'est réservé aux États, à des grands opérateurs de télévision, des choses comme ça.
Et justement, il y en a qui ont déjà une longueur d'avance. On va regarder par le hublot de notre fusée. Vous voyez ce satellite qui est grand comme un frigo. Il appartient à une start-up franco-américaine, Loft Orbital, qui fait ce que tu décris, Emmanuel, qui loue quasiment à la minute ses satellites. Vous allez voir, on va suivre son trajet. Alors là, il est en train de survoler la mer de Barents. C'est pour un client russe qui demande des mesures sur les dérives glaciaires. Puis il file vers la péninsule coréenne pour une surveillance maritime. Ensuite, il va survoler l'Indonésie. Là, l'agence spatiale locale a commandé des données sur la déforestation. Et puis enfin, plus au sud, c'est le Bureau des parcs et jardins australiens qui a requis une évaluation des dégâts d'une sécheresse. Alors, encore une fois, on a observé tout ça en accéléré. Mais en gros, en moins d'une heure, ce microsatellite va servir 6 clients différents.
Dès aujourd'hui, n'importe quel client pourra se payer une place à bord de nos satellites grâce à une carte de crédit et un paiement aussi simple que n'importe quel achat commun qu'on peut trouver dans le commerce.
Lui, c'est Antoine de Chassy, PDG et fondateur de Loft Orbital. Il nous parle depuis Toulouse, donc sur la Terre.
Loft Orbital a été la première société à créer le leasing de l'espace et donc un accès au spatial aussi simple que du leasing d'un véhicule ou d'un avion pour l'industrie aéronautique.
Et ça donc pour n'importe quel client, une PME, une agence gouvernementale, c'est le même principe.
Vous êtes un client demain, mais vous me dites, moi pendant 6 mois au-dessus de mon pays ou au-dessus de ma zone d'opération, j'ai besoin d'avoir des moyens d'observation, je ne veux pas attendre 3 à 5 ans pour lancer ma mission, Moi, je leur donne accès à mon satellite. Ça permet d'avoir plusieurs clients côte à côte qui partagent les mêmes ressources sans que l'un sache ce que fait l'autre d'ailleurs. Mais ils ont l'ensemble des performances fournies par le satellite juste pendant la durée de temps dont ils ont besoin ou juste sur la zone géographique qu'ils souhaitent couvrir.
Et tout ça pour la modique somme de
500 000 euros si vous voulez faire voler un logiciel, si vous voulez faire un petit peu de traitement de données pendant 2-3 ans. Et puis ensuite, si vous voulez réserver une grosse partie de la capacité parce que vous allez réserver, disons, 30-40% du satellite, ça va vous coûter quelques millions d'euros, mais pas des centaines.
Bon, ça fait science-fiction, mais c'est déjà demain. Et tout ça, c'est possible, Emmanuel, parce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de mettre sur orbite un satellite.
Les prix ont été divisés, alors je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est au moins par 10 sur les 20 dernières années, et ça ne cesse de s'accélérer. Ce qui fait que ça brise une sorte de plafond de verre, qui faisait ce qu'on disait tout à l'heure, que pas si longtemps que ça, il y avait que les États ou les très très grands groupes qui étaient capables d'investir et de miser sur des satellites. Ça fait qu'aujourd'hui, presque des start-up, avec un petit peu de moyens évidemment quand même, pourront imaginer un service dans le spatial. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas imaginer tout ce qui va être fait parce que quand on voit ce qui a été fait sur Internet, le pléthore d'idées, on peut imaginer que tous ces services qui ne coûtent pas grand-chose vont vous donner des idées fantastiques à une génération de start-upers.
On est très loin de savoir aujourd'hui quel est le marché et les applications à venir. Je donne juste un exemple, la voiture autonome. Possible demain, dans nos villes, comment ? Pas par les antennes, grâce à ces constellations-là, parce qu'elles seront suffisamment proches de la Terre pour pouvoir envoyer un signal en direct, immédiat. D'ici là, c'est même pas la peine d'y penser réellement. Donc déployer la voiture autonome sur de grandes villes, de grands centres urbains, ça sera possible, notamment grâce à ce genre d'infrastructures.
C'est un bon exemple parce que la différence entre le satellite géostationnaire, qui est en orbite haute, et les constellations, c'est le temps de latence. Alors le temps de latence, pour monsieur et madame Michu, j'allais dire sur Internet, pas très important. Quand on a une voiture autonome à un croisement, il vaut mieux que le temps de latence soit excessivement réduit.
Oui, parce que sinon madame Michu se fait écraser.
C'est ça, voilà.
Donc on le voit, l'avenir de l'espace appartient au secteur privé. Et cette course aux constellations de satellites, elle se joue entre, on a déjà un petit peu parlé, les deux hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos et bien sûr Elon Musk. Qui va gagner ?
Musk, il a quand même développé un lanceur qui est le plus performant du monde, qui s'appelle la Falcon 9, qui est réutilisable, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici, et qui permet d'avoir une cadence de lancement extraordinaire et qui lui permet de développer son système de constellation. Je vous donne là aussi juste un tout petit exemple. On se concentre sur un mois, le mois de mars 2021. Musk, il fait 4 lancements et il balance 350 satellites en un mois. Voilà. En un seul mois, il fait ça. Il est le seul à pouvoir faire ça. Notre ami Bezos est encore très, très loin de ça. Il a un projet de constellation qui s'appelle Kuiper, qu'il a annoncé en 2019. On est en 2021. Il l'a vraiment lancé en 2020, donc c'est vraiment très, très récent.
Le récent one is, it would be Project Kuiper. This is our LEO satellite constellation.
Il est beaucoup moins ambitieux sur le papier que celui de Musk, puisque c'était 3200 satellites en orbite basse. C'est un chiffre important, 3200, parce qu'il n'a pas la même démesure quelque part que Musk. Et c'est ce qui peut revenir sur l'idée qu'effectivement, il faut aller très vite. Dernière chose sur Bezos, il vient d'annoncer qu'il quittait la présidence d'Amazon officiellement pour pouvoir se concentrer sur ses projets plus personnels. Ça s'appelle Blue Origin et ça s'appelle Kuiper. Donc il va y avoir un coup d'accélérateur dans l'année à venir qui va être terrible.
Après, ce qui peut jouer, à mon avis, un peu pour Bezos, effectivement, il a un large retard, c'est qu'à un moment ou à un autre, les acteurs privés et publics auront tout intérêt à ce qu'il y ait quand même un deuxième acteur un peu puissant. Parce que si on laisse totalement la main à Elon Musk, on voit quand même le bonhomme n'est pas toujours hyper équilibré, qu'il a quand même, il se voit à la fois un peu comme une espèce de sauveur de l'humanité, mais en même temps, on peut imaginer qu'il est bouffé un peu délirante, un peu messianique, quoi. Donc moi, je pense que quand même, à un moment, les États et les acteurs privés vont se dire c'est quand même peut-être pas mal de miser sur un deuxième autre acteur. On ne sait jamais.
Et sur la rivalité, vous savez s'ils se parlent, s'ils confrontent leurs projets ?
On raconte qu'ils se sont rencontrés il y a 15 ans et qu'ils ne se sont pas entendus du tout. Que l'un lui a dit « moi, je vais faire ça » et l'autre lui a dit « non, mais pff, n'importe quoi ». Et qu'ils l'ont super mal pris, l'un et l'autre. Et aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'ils sont dans une vraie, vraie grosse rivalité.
Donc dans ce nouveau Far West de l'espace, on a deux cow-boys milliardaires qui s'affrontent. C'est vrai qu'on dirait un peu une BD ou un film. Un film qui pourrait tourner au film Catastrophe, parce qu'à force d'envoyer autant de satellites dans cette orbite basse, Bruno, il va y avoir un embouteillage.
Ce qui me fait peur et ce qui fait peur à beaucoup d'experts, évidemment, c'est l'accident. C'est qu'en multipliant le nombre de ces engins, eh ben, ils se rencontrent et que les collisions soient de plus en plus nombreuses. On a assez peu d'exemples de collisions. Il y en a eu deux ou trois. Elles se situent justement pas à ces altitudes-là de 300-600 km. Elles se situent juste au-dessus. Il y en a un qui est célèbre. 2009, un satellite russe d'un côté, un satellite américain de l'autre, Iridium et Cosmos, rentrent en accident. Et là, je te donne, là aussi, un ordre de grandeur. Cet accident a généré des dizaines de milliers de morceaux, donc des dizaines de milliers de débris nouveaux qui arrivaient. Juste sur cet accident-là, on a doublé le nombre de débris de plus de 10 cm dans l'espace, juste en un accident.
Donc ça, c'est une sorte de réaction en chaîne. Et d'ailleurs, ça a été théorisé, ça s'appelle le syndrome de Kessler. C'est quoi exactement ?
Le syndrome de Kessler, ça a été inventé, théorisé effectivement à la fin des années 70 par un astronome qui s'appelait Kessler, qui était à la NASA. L'idée, elle est simple, hein. Plus il y a de débris, plus il risque de se heurter, et de façon exponentielle et par effet domino, créer de nouveaux débris. Ça commence à faire vraiment peur à certains scientifiques parce que certains commencent vraiment à penser qu'à un moment ou un autre, cette orbite basse, eh ben, elle sera inutilisable tout simplement.
Parce qu'elle sera saturée de débris.
Saturée de débris. Et l'idée, c'est que même quand tu enverras Thomas Pesquet dans l'espace, vers la station spatiale, eh ben, il pourra y avoir un risque de rencontrer un débris. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on tire Soyouz, soit ces Crew Dragon de Musk. On regarde s'il n'y a pas un débris sur la route. Et il n'est pas inimaginable qu'à un moment ou un autre, ça se passe. Et bon, heureusement, depuis les années 60, les astronautes ont des combinaisons qui font qu'ils sont un peu protégés si jamais il y a un choc. Mais voilà, les images des astronautes qui montent dans l'espace, qui sont sans combinaison, etc., il y a un moment où ça peut être compliqué.
Ce syndrome de Kessler a inspiré le film Gravity d'Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et George Clooney. C'est pas très rassurant pour nous à bord d'Explainer One, alors on va prudemment redescendre sur Terre en évitant les débris. Merci Bruno et Emmanuel. Puisqu'on parle d'étoiles, n'hésitez pas à nous en mettre un maximum sur vos plateformes d'écoute si ça vous a plu. Et surtout à vous abonner pour ne rater aucun numéro de La Loupe. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.